toutes et à tous. Vous êtes sur l'émission L'Instant Théovie, une émission qui se propose de faire connaître ce service, le service Théovie sur Internet, théovie.org, service libre et gratuit dont la mission, la vocation est de donner à comprendre et à lire les textes bibliques, que cela soit pour des personnes croyantes ou des personnes incroyantes. Et voilà, qu'à travers ce service, eh bien, le texte biblique soit plus facile à appréhender. Pour aujourd'hui, je me propose vu la semaine dans laquelle nous sommes et qui est celle qui précède la période de Pâques, je propose de faire une série de trois émissions sur cet événement fondateur, singulier, spécifique, qu'est la résurrection. Et nous partirons pour ces trois émissions d'une conviction que sans résurrection, eh bien, notre foi est vaine, pour reprendre le propos de l'apôtre Paul. Et je vais donc vous proposer donc trois émissions. La première qui tournera sur le problème de la foi en la résurrection. Donc nous verrons que c'est quelque chose de foncièrement problématique, que la foi en la résurrection est foncièrement problématique. Donc ce sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pour une deuxième émission, nous essayerons de retracer les sources de la foi en la résurrection dans l'Ancien Testament. Et puis, troisième émission, nous verrons l'actualité de la foi en la résurrection. Donc, je commence ça par la première émission annoncée, la première problématique annoncée, à savoir justement que la foi en la résurrection est foncièrement quelque chose de problématique, qui pose problème. Et pour illustrer ça, on pourrait illustrer de multiples façons, on pourrait partir de multiples expériences. Je vous propose de prendre un sondage qui avait révélé que 1 Français sur 10 seulement croyait en la résurrection. Alors, chiffre, encore une fois, qui est déjà quelque peu interpellateur, mais qui l'est d'autant plus que, a priori, on retrouvait la même proportion de personnes qui croyaient en la résurrection chez les catholiques eux-mêmes. Voilà. Donc, le sondage, a priori, ne fournissait pas de détails, il n'avait pas l'air d'avoir sondé les protestants. Donc, c'est pas la question, c'est pas de savoir si c'est différent chez les catholiques ou les protestants, mais ce qui est important, peut-être, d'identifier, c'est que dans une population croyante, dans une population chrétienne, même si bien entendu le catholicisme étant voilà, culturellement la religion première, on peut penser qu'il y a peut-être plus comment dire, d'à peu près, d'approximation, évidemment, que quand on est une religion, plus de militants, de personnes convaincues, comme c'est le cas de la minorité protestante en France, en tout cas. Voilà. Donc, évidemment, la question, c'est pas de discuter ce genre de chiffres, on s'en fiche un peu, mais c'est beaucoup plus de montrer quand même que ça, au moins, ça montre que, voilà, foncièrement, même pour des croyants, même pour des chrétiens, eh bien la résurrection est quelque chose d'extrêmement problématique. Voilà. Si on avait eu 9 catholiques sur 10 croient en la résurrection, ou 8 sur 10, bon, les choses auraient été évidemment très différentes. Mais 1 sur 10, c'est foncièrement problématique, c'est foncièrement révélateur de quelque chose de problématique. Alors ce sondage, il est de 2009, et donc bien sûr on pourrait se dire qu'il est peut-être un peu daté, mais encore une fois, ce qui est important, c'est surtout de voir ce chiffre abyssal qui, encore une fois, voilà, révèle le problème fondamental. J'imagine que si on refaisait un sondage similaire aujourd'hui, eh bien on aurait même peut-être plutôt une baisse, on aurait peut-être plus qu'un Français sur 20, et peut-être pas un catholique sur 20, mais au moins un catholique sur 15. Voilà. Alors pour essayer d'appréhender cette question, c'est que d'abord il faut tout de suite dire que la résurrection, c'est beaucoup plus que la seule idée d'une vie au-delà de la mort. Parce que, évidemment, si on parle de résurrection dans l'esprit, eh bien, tout de suite, on va avoir voilà, ces grandes fresques de peintres avec voilà, avec les morts, les trépassés qui reviennent à la vie, etc., etc. Et donc, bien évidemment, si c'est cette représentation première que le terme résurrection, eh bien, fait venir en nous, eh bien, quelque part. C'est pas totalement surprenant que aujourd'hui des gens bah voilà ils soient pas très nombreux à répondre qu'ils croient à ce genre de choses voilà. Donc c'est la première chose importante à souligner, c'est déjà en soi que la résurrection n'est certainement pas réductible à ce type de représentation, parce que même si la résurrection des morts est incontestable dans le Nouveau Testament. On a encore une fois cette idée que sans résurrection des morts, la foi chrétienne est vaine. Eh bien, en réalité, toute la prédication évangélique repose sur la résurrection. Non pas, encore une fois, la résurrection comme cette représentation de la résurrection des morts, mais la résurrection comme un événement. Un événement d'une traversée, un événement d'un. Comme d'un bouleversement, comme l'expérience d'une remise debout, comme événement d'une reprise de la vie, comme événement d'une espérance qui est à nouveau possible, etc., etc. Donc, il faut être extrêmement conscient qu'il n'y a pas une seule ligne du Nouveau Testament qui ne soit pas motivée, qui ne soit pas inspirée, qui ne repose pas sur la résurrection. Et donc, c'est pour cela que chercher à isoler la résurrection du reste de la foi ou de la prédication est en réalité totalement absurde. On peut isoler des idées distinctes, des représentations distinctes, comme par exemple la guérison. Et donc là, on peut avoir ces images dans le Nouveau Testament d'épisodes d'aveugles qui retrouvent la vue, de boiteux qui sont remis debout, de lépreux qui sont purifiés. Et donc, bien entendu que derrière ces images, il y a quelque chose de la résurrection qui s'exprime. Donc voilà, tout ça, on peut le distinguer, on peut l'appréhender. On peut aussi distinguer tout ce qui est de l'ordre de la rencontre existentielle. Bouleverse une vie, qui la transforme, qui fait qu'il y a un avant et qu'il y a un après, comme aussi bah, le fait que une fois qu'il a été mis à mort, eh bien la parole que Jésus portait n'a pas été coupée définitivement, ne s'est pas tue définitivement, mais qu'elle s'est répandue et elle s'est répandue avec d'autant plus de force. Que, ben voilà, encore une fois, elle a retenti à travers les siècles et à travers le même la géographie du monde et à travers les siècles. Donc voilà, tout ça, on peut le distinguer, on peut en faire des tableaux différents, des représentations différentes, et à chaque fois, bien sûr, c'est ce même mouvement de la résurrection qui est en arrière-fond. Donc, encore une fois, la résurrection ne signifie pas uniquement voilà, la résurrection des morts telle que les fresques des peintres ont pu nous les graver, disons, comme vision et peut-être comme quasi-définition de ce que le terme de résurrection signifie. Le Nouveau Testament, quand on y regarde de plus près, lui-même ne donne pas de grandes fresques sur la résurrection des morts. Il reste extrêmement, extrêmement sobre, comme si quelque part la résurrection était surtout, encore une fois, ce mouvement, cette dynamique, et que les effets que cela produit, les effets de changement que cela produit, eh bien, ben cela peuvent faire l'objet de témoignages, peuvent faire l'objet de descriptions, mais que il ne faut pas confondre le mouvement et les effets. Il ne faut pas confondre la dynamique et les représentations qu'on peut ensuite en faire dans l'après-coup. C'est extrêmement important de distinguer, encore une fois, la résurrection des effets de la résurrection. Voilà. Et donc la dynamique, le mouvement et les effets que ça produit, les représentations qu'on peut ensuite en faire, notamment bah, pour en témoigner. Voilà, parce qu'on peut évidemment, si on veut témoigner de choses, il faut en faire des représentations, mais les représentations ne sont pas, enfin, il faut les distinguer, encore une fois, de la dynamique du mouvement. Personnellement, comme prédicateur, j'ai toujours, pour cette raison-là, insisté fortement sur l'idée que la résurrection, c'était fondamentalement la découverte d'un tombeau vide. Pour moi, l'expression tombeau vide est une expression absolument fondamentale. C'est synonyme de la résurrection, c'est la meilleure manière, selon moi, de dire la résurrection. Parce que, justement, le tombeau vide, c'est d'abord un tombeau qui est vide de sens, qui est vide de représentation, qui est vide d'idées. Alors bien entendu, il n'est pas archi-vide, puisque s'il était archi-vide, ça serait du néant. Donc il y a bien entendu, dans ce tombeau vide, il y a bien entendu des paroles, paroles d'ange, enfin si on peut appeler ça ange, le texte va peut-être pas jusque-là, mais en tout cas voilà, de personnes qui vont mettre en mouvement les premiers témoins de ce tombeau vide, d'indices avec des linges par terre, des bandelettes, etc., etc. Donc il y a c'est tout ça qui pointe vers des témoignages, des confessions, des annonces, des prophéties, etc., etc. Donc encore une fois, c'est un vide qui est balisé par un certain nombre de choses qui donnent une direction, qui donnent voilà, qui font que ce vide n'est pas une sorte de néant sans bord ni fond, mais que effectivement ce vide est surtout une traversée, quelque chose voilà qui fait passer d'un état à un autre, d'un avant à un après, etc., etc. Mais je pense absolument important, encore une fois, d'insister sur cet adjectif, ce qualificatif de vide du tombeau. Le vide du tombeau, c'est comme quelque part la mer qui est séparée en deux par Moïse et qui va permettre un passage là où c'était pas possible, là où on était arrivé au bout, au fond, on était arrivé au fond de l'impasse, dans le cul-de-sac. Là, il y avait plus possibilité d'aller plus loin, il n'y avait plus possibilité d'avancer. Eh bien, le tombeau vide, quelque part, c'est l'effraction de cette réalité, de ce mur, de cette fin. Voilà, ça c'est je crois que c'est extrêmement important. Et c'est ce vide, cette brèche, qui est au cœur du Nouveau Testament. Si on prend les quatre évangiles, ils ont tous les quatre une manière très personnelle de dire ça. Alors, encore une fois, on peut pas dire le vide, c'est pas possible. Donc il faut utiliser, enfin il faut faire vaciller le langage, il faut essayer de pointer des effets, il faut essayer de montrer des stupéfactions, il faut essayer de prendre des images qui sont paradoxales. Voilà. Mais justement, les évangiles, les quatre évangélistes ont cherché chacun à leur manière à dire cette effraction et donc ce vide du tombeau. Si on prend par exemple l'évangile de Matthieu, qui à mon sens d'ailleurs sur ce point précis du vide est le plus précis, eh bien on voit que justement chez Matthieu le tombeau il s'ouvre devant les femmes. Donc ça c'est extrêmement important puisque chez les autres en fait les femmes arrivent, le tombeau était déjà ouvert. Chez Matthieu c'est le seul, le tombeau s'ouvre devant les femmes et il s'ouvre vide. Voilà, donc du coup, les autres évangélistes, au fond, le fait que le tombeau soit ouvert quand les femmes arrivent, eh bien, on pourrait penser, bah, c'est normal du coup qu'il soit vide, puisque ayant été ouvert, bah, Jésus est sorti, et puis du coup, bah, elles sont arrivées trop tard, et donc bah, le tombeau est vide parce que bah, il est déjà parti. Donc quelque part, le vide, c'est une sorte de rendez-vous manqué. Voilà. Bah, chez Matthieu, on n'a pas du tout cette mise en scène-là du récit, puisque encore une fois, il s'ouvre vide. Donc là, du coup, bah, la question qui se pose, mais qui se pose pas, parce que si elle se pose, bah, du coup, c'est le texte ne veut plus rien dire. Et or, le texte veut dire quelque chose. Eh bien, c'est que bah, le corps n'y est pas. C'est pas, il n'y est plus. C'est qu'il n'y est pas. Voilà. Et donc, et c'est du coup le tombeau vide en tant que tel qui est l'événement qui est donné à voir par les femmes chez Matthieu. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'encore une fois, c'est l'évangéliste le plus précis sur cette question du vide, du tombeau vide. Et de ce point de vue-là, c'est pour moi extrêmement, extrêmement signifiant et nourrissant. Mais encore une fois, les autres évangélistes ont réfléchi les choses dans des registres sensiblement différents qui se recoupent, qui se rejoignent et qui justement permettent à cet indicible du vide du tombeau qu'est la résurrection, ben justement de montrer qu'est-ce que ça a fait vaciller, qu'est-ce que ça a produit comme effet, qu'est-ce que ça a déplacé comme chose dans l'existence, dans le réel des vies. Chez Marc, par exemple, eh bien, c'est assez important, intéressant de voir que les femmes, donc, qui constatent que le tombeau est vide, on nous dit qu'elles sont troublées par ce vide et qu'elles sont tremblantes de peur et muettes. Bon, c'est assez intéressant parce que, au fond, c'est exactement l'inverse de ce que le terme évangile signifie, puisque évangile, on peut dire, c'est deux mots, c'est bon. Et nouvelle, bonne nouvelle, donc le bon, le bien, le voilà, le se sentir bien aussi, et puis la nouvelle qui est bah, la nouvelle qu'on propage, la nouvelle qu'on colporte, la nouvelle qui se répand, bah, voilà, et bien bah, les femmes en étant tremblantes de peur et muettes, et bien c'est tout le contraire, puisqu'elles sont complètement fermées sur elles-mêmes, elles sont fermées par la peur, elles sont fermées par le silence. Voilà, donc on est exactement à l'opposé de tout évangile. Bon, et du coup, si le texte peut le texte de Matthieu, le texte d'évangile de Matthieu est là, eh ben c'est que forcément ces femmes ont parlé, parce que sinon, par définition, on n'aurait pas pu recueillir leur témoignage, on n'aurait pas pu entendre la bonne nouvelle de la résurrection, et du coup, ça n'aurait pas pu s'écrire. Et donc, quelque part, chez Marc, on voit que le processus est intéressant puisque, eh bien, c'est ce silence tremblant qui va quelque part marquer le fait que ces femmes vont traverser elles-mêmes cette espèce d'effraction, cette brèche qui a été faite, et qu'elles vont passer justement de l'état de peur et de silence, de mutisme, à un état de joie. Et de prédication et de témoignage. Voilà. Donc voilà. Donc chez Marc, il y a c'est important puisque ça montre que quelque part la résurrection, elle a été faite sienne par les premiers témoins. Voilà. Elle rapporte pas quelque chose qu'elles ont vu, elle rapporte quelque chose qu'elles ont vécu. Voilà. Elles sont passées elles-mêmes à travers cette effraction qui est la résurrection. C'est Luc, il y a plusieurs, il y a sans doute plusieurs récits qui peuvent aussi témoigner de cette effraction de la résurrection, mais évidemment un des plus spectaculaires et des plus significatifs, c'est sans doute les disciples d'Emmaüs, puisque les disciples d'Emmaüs, tout le monde connaît l'histoire, hein, il y a ces deux disciples qui marchent, qui rencontrent Jésus, qui ne le reconnaissent pas, qui parlent avec, etc. Donc c'est assez marrant quoi de voir que finalement il est là, il est vivant, mais bon, finalement il n'est pas là, il n'est pas vivant puisqu'ils ne le reconnaissent absolument pas. Et puis c'est au moment où effectivement Jésus va rompre le pain de la Sainte Cène et qui va du coup disparaître de leur vue, qui va être vu. Donc il y a quelque chose de très paradoxal qui est présent dans le récit. C'est dans le moment de la disparition qu'il est dans l'apparition. Voilà. Alors là, c'est pareil. Si on lit bêtement, on se dit, ah, ils l'ont entreaperçu juste avant qu'il disparaisse. Mais non, c'est pas absolument pas ça. C'est que il y a vraiment ce paradoxe que c'est le fait du pain rompu, donc d'une brèche, d'une effraction, qui fait que, encore une fois, ça matérialise quelque chose de ce que l'événement de la résurrection produit. Eh bien, c'est dans ce moment-là que celui qui était là, qui n'était pas vu, eh bien, tout à coup, il n'est plus là, mais il se voit. Voilà. Donc, il y a un passage, là aussi, qui est un passage existentiel, un passage de révélation aussi, puisque c'est comme ça que, tout d'un coup, le Seigneur est vu. Voilà. On va dire à peu près la même chose chez Jean, de manière encore peut-être plus encore plus fondamentale sur la question du voir, puisque Jean est quand même un auteur très, très 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 fin de cette question, selon laquelle finalement c'est voilà on ne peut pas voir si d'abord il n'y a pas le croire, que c'est le croire qui produit le voir, hein, donc on va trouver au moins deux récits significatifs, évidemment, c'est avec Marie de Magdala au tombeau qui voit le Jésus en jardinier, enfin qu'elle confond avec le jardinier, et puis aussi avec Thomas le Didyme, avec Thomas le jumeau qui dit qu'il ne peut pas, enfin il faut qu'il voie pour croire, et que finalement bah, il fera exactement le contraire. Voilà. Donc on voit très bien comment dans le Nouveau Testament, voilà, c'est cette question de la brèche, elle est absolument significative, elle est absolument présente, et donc voilà, la résurrection c'est fondamentalement ça. C'est pas la représentation de quelque chose, et c'est même à cause de ça qu'il n'y a pas de représentation explicite de résurrection des morts, parce que quelque part, s'il y avait une représentation explicite de la résurrection des morts, eh bien, bah, du coup, à la place de cette brèche, à la place de cet événement, encore une fois, de trouée, d'ouverture, etc., etc., bah, on aurait quelque chose devant nous qui serait à prendre tel quel, quoi, quelque part, qui serait à gober, à assumer, à croire, voilà, et donc il y aurait plus ce mouvement, ce dynamisme, cette rupture quantitative, ce basculement, cette traversée, enfin bon, voilà, tout le champ sémantique du basculement, ou tout simplement, puisque c'est pas que du passage. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important de voir que les récits, voilà, préfèrent mettre du mouvement, préfèrent faire passer leur lecteur, faire traverser leur lecteur, plutôt que de les bloquer avec des représentations qui finalement les scotcheraient, et en plus les mettraient en spectateur de quelque chose, alors qu'il faut être plutôt, enfin, il faut plutôt être passé soi-même. Voilà. Donc c'est un témoignage particulier que celui du Nouveau Testament, dans cette façon de privilégier un style de témoignage plutôt qu'un autre, de plutôt utiliser des expressions de mouvement, etc., plutôt que de brandir des représentations. Voilà. Et donc on comprend que, puisque cette émission parlait du problème de la résurrection, ben on peut penser qu'il y a du coup deux types qui sont complètement, radicalement opposés de rejet de la résurrection. Il peut y avoir des rejets qui sont en réalité des rejets de représentation de la résurrection qui justement saturent ce vide du tombeau. Voilà. Il faut être conscient de ce point de vue-là que toute représentation a une histoire, toute représentation va évoluer. Au fond, une représentation, elle peut commencer en étant, voilà, quand elle apparaît, quand elle est créée, quand elle est pour la première fois établie, cette représentation, bah, elle peut être totalement subversive. Et puis, au fur et à mesure du temps, le temps passant, eh bien, cette représentation subversive, bah, elle peut devenir complètement une norme. Et du coup, bah, elle a plus du tout les mêmes effets et elle dit plus du tout la même chose. De ce point de vue-là, on peut prendre un exemple extrêmement éloquent qui est celui de la croix. La croix, à la base, c'est un supplice. Donc c'est l'image de la croix, c'est l'image de quelque chose qui est totalement insoutenable, qui est profondément dégoûtant. Voilà, qu'on ne veut pas voir, et c'est pour ça d'ailleurs que les premiers chrétiens ne vont certainement pas utiliser la croix comme symbole. Voilà, ils vont beaucoup plus utiliser ce poisson ictus. Voilà, parce que encore une fois, la croix c'est quelque chose d'absolument répugnant, et c'est du coup voilà, ça va être utilisé par Paul comme un paradoxe, au fond, hein, le scandale de la croix, la folie de la croix, voilà, ça va dire quelque chose de la révélation paradoxale. Et encore, justement, Paul, il va pas utiliser la croix comme représentation, là, il va l'utiliser plutôt quand il parle de parole de la croix, il en parle plus comme d'un symbole. Donc là, on n'est même encore pas dans la représentation à proprement dite, mais voilà. Mais du coup, ça va contribuer sans doute à rendre la croix, qui était quelque chose d'absolument hideux et dont les chrétiens ne voulaient certainement pas voir, en quelque chose petit à petit qui a commencé à pouvoir se voir et donc à se représenter, et puis finalement par saturer l'espace, puisque finalement l'espace occidental est complètement saturé de croix, il y en a partout, y compris autour du cou. Donc il y en a en bois qui peuvent être ou sobres qui peuvent donner, voilà, à juste titre, disons, de symbole de voilà, encore une fois, de la foi chrétienne. Donc il ne s'agit pas de le rejeter, mais bien sûr, voilà, quand elle est plus, quand elle fait l'objet de d'ornements luxueux, etc., etc., ben on peut se demander si finalement elle dit pas un peu l'inverse, quoi, puisque du coup elle est plutôt belle, étincelante, désirable, etc., etc., alors qu'à la base, ben, c'est tout le contraire que ça. Donc on voit bien là, avec cet exemple, sur lequel je vais pas épiloguer 107 ans, que toute représentation finalement évolue. Donc, évidemment, en ce qui concerne la résurrection, eh bien, les représentations de la résurrection, ben, forcément, elles évoluent elles aussi, et donc à un moment donné, ben, elles peuvent ne plus dire la même chose, et elles peuvent même dire le contraire de ce que elles signifiaient initialement. Donc, il faut pas hésiter, à mon sens, à faire le vide-grenier. Parce que justement, dans le Nouveau Testament, on ne nous impose pas de représentation de la résurrection des morts ou de la résurrection en général. Et donc, quelque part, voilà, on n'est pas obligé de se trimballer et d'assumer des choses qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui et qui finalement feraient peut-être plus passer pour des représentations de films de zombies que de rendre compte de la foi évangélique. Voilà. Donc, là-dessus, ben, il faut se sentir libéré. Donc ça, c'est un premier type de rejet, voilà, un rejet qui serait lié au fait que, bah, les représentations ont mal vieilli. Donc de ce point de vue-là, les chrétiens eux-mêmes ne les supportent plus. Voilà. Et puis il peut y avoir des représentations, enfin des rejets plutôt de la résurrection qui sont sur une bonne compréhension. Voilà. C'est-à-dire on a bien compris ce qu'était la résurrection, donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas la représentation qui rend mal de ce qu'est la résurrection. La résurrection est bien comprise, mais du coup on la rejette. Et ça, cette question du rejet de la résurrection, bah, elle est primitive, elle est initiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a résurrection et où il y a foi en la résurrection, bah, dans le même mouvement, il y a également rejet de la résurrection. On peut penser, par exemple, mais il y en avait certainement bien avant, mais en tout cas, on peut penser à l'épisode de Paul sur l'aréopage d'Athènes qui est relaté dans le livre des Actes. Et là, on voit bien dans ce passage extrêmement intéressant que finalement, voilà, c'est pas un problème de compréhension, mais c'est que tout d'un coup, les philosophes qui étaient intéressés par ce que Paul racontait sur la divinité, etc., etc., voilà, bon, ça, ils n'étaient pas hostiles à ce que racontait Paul. Tout d'un coup, la question de la résurrection, ben là, ça colle plus, quoi. Donc ça, voilà, ça crée un abîme entre lui et sa foi et eux, voilà, et eux et leur système de pensée, puisqu'au fond, ce rejet, du coup, il est facile à comprendre. C'est pas tellement que, et ça, c'est important de le signaler, c'est que c'est pas tellement le fait que la résurrection des morts serait plus irrationnelle. Et donc que quelque part la philosophie ne la rejetterait à cause de cette irrationalité-là, parce que finalement, bah, quand on prend la croyance des philosophes, en tout cas au moment de ceux qui discutent avec Paul, voilà, des vraisemblablement des stoïciens, il y a chez eux une croyance dans l'immortalité de l'âme, par exemple. Bon, on peut tout à fait dire que l'immortalité de l'âme n'est pas spécialement plus rationnelle que la résurrection. Bon, par contre, la différence, c'est qu'effectivement, l'immortalité de l'âme, il y a une certaine permanence de la raison, puisqu'il s'agit quelque part de poser la raison philosophique comme une sorte d'un principe immortel. D'ailleurs, il y a bien l'idée que quelque part l'homme a du divin en lui, et que s'il accède à ce divin en lui par la philosophie, bah, quelque part, voilà, il va atteindre cette réalité, ce stade de divinisation, d'immortalité, etc., etc. Bon, et si finalement c'est incompatible avec la résurrection évangélique, c'est parce que quelque part la résurrection évangélique, eh bien du coup, elle n'est pas du tout construite sur quelque chose qui serait en l'homme, sur de la divinité en l'homme, sur une raison qui serait une sorte de raison toute puissante, puisque bien entendu la foi évangélique est basée sur une toute autre réalité. sur une réalité qui implique une dépossession de soi, qui implique une mort, qui implique du péché. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose dans l'homme qui échoue. Voilà, la raison, même si c'est quelque chose d'important, de fondamental, de beau, etc., etc., en même temps, elle n'est pas toute puissante et elle n'est absolument pas divine. Voilà. Donc ça c'est une différence, une rupture fondamentale. Que c'est effectivement la compréhension humaine dans la foi évangélique implique une fragilité. Voilà, on voit bien que tout ça, c'est quelque part, ça rentre en contradiction avec une certaine idée que la philosophie, peut se donner. Donc encore une fois, c'est pas que l'une serait plus rationnelle que l'autre, mais c'est qu'il y en a une qui est peut-être qui est moins raisonnable que l'autre. Voilà, la résurrection. Elle n'est pas raisonnable parce qu'elle n'est pas construite sur la raison. Elle n'est pas quelque chose qui est justifiable par la raison. Elle est quelque chose, voilà, qui est de l'ordre comme le dirait Paul aussi, d'une folie, d'un scandale, d'une grâce, donc quelque chose d'absurde, etc., etc. Donc tout ça, ça peut pas être justifié. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la résurrection évangélique, elle a quelque chose de profondément rationnel. Voilà, tout simplement parce que voilà, depuis le témoignage biblique jusqu'à ce qu'on peut trouver dans l'histoire voilà, du christianisme, de la chrétienté, etc., c'est que cette résurrection, elle a des effets, et que ces effets sont des effets d'émancipation, des effets qui produisent des changements de société, de compréhension du monde, etc., etc., et que tout ça est parfaitement rationnel. Voilà, c'est pas un doux délire, une psychose ou un truc qui est complètement de l'ordre de l'hallucination. Voilà. Donc encore une fois, la résurrection est bien quelque chose qui est quelque part rationnel, même si son fondement, lui, n'est pas rationnel, et la résurrection, sans doute, n'est pas raisonnable. Et donc, de ce point de vue-là, elle est pas ou elle est difficilement, en tout cas, compatible avec la philosophie. Donc c'est important, en disant ça, c'est important de bien distinguer dans ce problème de la résurrection. C'est quelque chose qu'il faut assumer, c'est inéluctable. Voilà, la résurrection, elle pose problème, mais c'est important, voilà, de comprendre ce qui pose problème pour des bonnes raisons, ce qui pose problème pour de mauvaises raisons. Qu'est-ce qui est effectivement rationnel, qu'est-ce qui n'est pas rationnel, qu'est-ce qui est raisonnable, ce qui n'est pas raisonnable, etc., etc. Mais toujours est-il que, encore une fois, la résurrection, c'est ce mouvement, ce dynamisme, et que les effets qu'il produit sont des effets, qui sont des effets spectaculaires et qui, eux, sont plutôt des effets rationnels.